Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Mesdames et messieurs, bienvenue sur Planète Business, l'émission où on parle chiffres, entreprises et un peu de conscience aussi. Aujourd'hui, on s'attaque à ce drôle de mot qu'on entend partout, responsabilité sociétale des entreprises ou comment les multinationales se découvrent une âme verte, parfois entre deux voyages en jet privé. Mais derrière le marketing, qu'est-ce que ça change vraiment pour l'Afrique? Est-ce un levier de développement ou juste une carte de visite pour séduire l'Occident? Pour en parler, nous sommes avec M. Demba Seydi de l'ONG Publier ce que vous payez en Afrique francophone qui nous aidera à démêler le vrai du greenwashing. Monsieur Seydi, merci encore de répondre à ces invitations.
C'est un plaisir pour moi de participer à cette édition, espérant que nos échanges pourront enrichir encore le débat.
Et justement, pour parler de ces échanges, comment les entreprises africaines perçoivent-elles, selon vous, la RSE comme une obligation externe, une opportunité stratégique ou un simple outil de communication?
Alors, je crois que c'est tous les trois. C'est tous les trois parce que, d'abord, la RSE, à la base, est conçue pour pouvoir faciliter les relations entre les entreprises et les communautés qui sont impactées par les activités de cette dernière. Donc la deuxième est que c'est de plus en plus un outil de communication, mais qui tend beaucoup plus à faire du maquillage parfois, dans certains cas, qui ne répondent quasiment pas aux besoins et aux attentes des populations et des communautés qui sont impactées par les activités de l'entreprise. Et enfin, c'est parce qu'il y a des obligations que les compagnies s'y mettent, sinon ce n'est pas leur business. En réalité, ce n'est pas des philanthropes, c'est des organisations qui cherchent des profits.
Des organisations qui cherchent également des pots. Et aujourd'hui, dans quelle mesure, justement, les initiatives RSE mises en place en Afrique tiennent-elles compte des réalités socio-économiques locales plutôt que de copier des modèles occidentaux?
Alors, c'est exactement l'enjeu fondamental de voir comment aujourd'hui les actions de RSE ou les investissements sociaux des entreprises répondent aux préoccupations des populations. C'est l'enjeu mondial partout d'ailleurs où elles opèrent, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Et toujours est-il qu'il est important, si elles ne respectent pas, que le gouvernement ou les gouvernements qui accueillent ces entreprises-là puissent définir des canaux clairs. Parce que dans les pays occidentaux, bien sûr, les entreprises ont des canevas clairement définis de comment et pourquoi il faut investir dans la RSE. C'est dans nos pays que généralement, elles s'attardent beaucoup plus dans le diviser pour mieux régner chez les communautés, parce qu'il y a souvent des supputations de la part des communautés qui ne sont pas souvent satisfaites de l'attitude soit de violation des droits de l'homme ou d'occupation massive de leurs terres. Donc, les gouvernements africains doivent redéfinir eux-mêmes leurs méthodes et leur façon de voir la RSE pour pouvoir répondre aux besoins des communautés.
Répondre aux besoins des communautés, mais aussi on se demande quels bénéfices concrets les entreprises africaines retirent-elles de la mise en œuvre de la politique et des politiques plutôt RSE?
Alors, vous savez, le plus compliqué pour les entreprises, c'est de bénéficier de ce qu'on appelle du titre social ou de la licence sociale. Parce que si c'est avec l'État, c'est facile, il y a des législations clairement définies de comment obtenir un permis d'opérer de quelque part, ainsi de suite. Donc, avec les investissements, naturellement, venir s'installer dans un pays, c'est très facile. Mais comment aujourd'hui ces compagnies-là peuvent opérer tout en restant dans un climat social très apaisé avec les communautés? C'est ça le grand enjeu. On a eu des cas où, bien sûr, les communautés se sont insurgées contre les entreprises, où les populations locales même ont manifesté longuement contre l'entreprise, ce qui naturellement va avoir des impacts sur la réputation et sur l'image de l'entreprise au niveau mondial.
De ces entreprises au niveau mondial, mais aujourd'hui également, qu'on fasse à cette orientation, la mise en place des pratiques RSE solides peut-elle réellement faciliter l'accès des entreprises africaines au marché et également aux financements occidentaux?
Oui, de la part aussi bien des entreprises que de l'État, je crois qu'il est important qu'on définisse ces mécanismes-là. Sinon, ça reste du laisser-aller. Et je crois que si elles continuent dans ce laisser-aller-là, ça réduit leur impact chez les communautés. Du côté de l'État aussi, naturellement, cela réduit. Parce que ce qui se passe dans plusieurs situations, c'est que parfois l'État transfère même ses propres responsabilités à l'entreprise. On a vu des cas où les populations se plaignent de non-existence d'une école ou d'un établissement de santé, alors que cela relève de la responsabilité de l'État. Dans ce cas de figure, si cela doit être transféré à une entreprise, mais il est clairement défini qu'on devrait le consigner dans un contrat. Parce que l'entreprise, chaque franc qu'elle dépense, que ce soit RSE ou toute autre chose, est comptabilisé dans son bilan à la fin de l'année. Donc naturellement, je crois qu'il faut le canaliser, il faut l'organiser pour pouvoir en tirer profit.
Et aujourd'hui, à votre avis, quels sont les impacts mesurables de la RSE sur les communautés locales ?
Alors de plus en plus, certaines communautés se satisfont de certaines actions des entreprises, notamment par la construction de routes ou de l'appui social pendant des situations un peu difficiles. On a vu des cas où soit c'est des inondations, soit c'est des catastrophes naturelles, où les compagnies viennent contribuer massivement. On a remarqué qu'aussi, durant la période de la COVID, il y a beaucoup de multinationales qui ont beaucoup appuyé certains États ou certaines communautés directement. La construction de certains postes de santé ou l'équipement, tout ça contribue bien sûr à dire que certaines bien sûr, entreprises ont fait des efforts en ce sens-là, même si c'est des efforts qui sont marginaux et qui ne sont pas souvent durables.
Et l'actualité au cœur même de la RSE pour cette fenêtre actualité avant de revenir avec notre invité qui, je rappelle, est Monsieur Demba Seydi qui, aujourd'hui membre de l'ONG, publié « Ce que vous payez en Afrique francophone ». On revient avec notre invité juste après l'actualité RSE.
Bienvenue dans votre actualité RSE dans le monde. En Europe, les entreprises déposent leur premier rapport sous la directive CSRD, mais surprise, moins de 40% jugent la nature vraiment importante pour leur business. L'eau, l'air, les forêts, apparemment ce sont des détails. Aux États-Unis, Exxon fait du lobbying pour bloquer la nouvelle loi européenne sur le climat. Comme quoi, sauver la planète, oui, mais pas au détriment du prix du baril. Et pourtant, les investissements durables continuent de grimper. 82% des grandes entreprises prévoient de mettre plus d'argent sur la table dans les prochains mois. Parce que la durabilité, c'est aussi un bouclier face aux crises. En Afrique, le ton change. Sommet sur le climat à Addis Abeba, forum RSE à Brazzaville et même des opérations de nettoyage massif dans les ports et les zones logistiques. Le message est clair. L'Afrique veut être actrice, pas spectatrice de la transition écologique. Alors, vraie transformation ou simple exercice de style, c'est la question que l'on se pose.
De retour avec notre invité, toujours pour parler de RSE en Afrique, mais également les impacts sur cette responsabilité sociétale des entreprises. Alors, Monsieur Seydi, aujourd'hui, par rapport à ça, quels sont les principaux obstacles rencontrés, selon vous, par les entreprises africaines dans l'adoption de stratégies RSE ?
Alors, le plus grand obstacle, c'est le fait que la RSE reste toujours volontaire et n'est pas suffisamment bien organisée, y compris pour les multinationales qui opèrent en Afrique. Donc, ce qui fait qu'elles sont laissées à leur propre vouloir et les secteurs qu'elles jugent les plus avantageux quant à leur réputation et quant à leur image. Ça, c'est un obstacle fondamental pour les pays africains. La deuxième chose est que c'est souvent défini par la compagnie elle-même et non par les communautés. Donc, ce n'est pas souvent sur la base de consultation et donc consentement des communautés, mais c'est plutôt c'est d'investir dans des activités ou dans des secteurs qui donnent beaucoup plus d'image et de publicité à la compagnie et non pour répondre aux besoins de ces populations-là. Donc, le manque de consultation, le manque d'encadrement juridique de la RSE. Je ne dis pas qu'il faut légiférer la RSE forcément, mais il faudrait qu'il y ait un encadrement juridique qui permet de, bien sûr, définir les secteurs dans lesquels les investissements de la RSE devraient être accentués. Donc, si on lève ces deux écueils-là, je considère que le reste sera bénéfique pour les populations.
Et aujourd'hui, comment les entreprises africaines peuvent-elles s'aligner sur les normes internationales tout en préservant leur identité et surtout leurs priorités locales ?
Alors, c'est deux choses. Je crois qu'il est important d'abord qu'on puisse transposer ces normes internationales dans les pays où il n'y a pas d'encadrement juridique ou politique de la RSE dans nos pays africains. Ça, si on prend cette approche-là, naturellement, les compagnies seront obligées de s'adonner à cela. Parce que de la même sorte que les normes qualité, hygiène, sécurité et environnement sont transposées et cela passe très bien avec les compagnies, mais on pourrait faire la même chose pour la RSE aussi, qu'on les transpose dans nos politiques ou dans nos législations nationales. Donc c'est la manière la plus efficace aujourd'hui, comme on le fait avec même les principes de droit de l'homme. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'exemples dans lesquels on peut tirer de leçons pour pouvoir aujourd'hui transposer les dispositions ou les normes de RSE qui existent ailleurs en Afrique pour que les compagnies puissent s'accommoder à cela.
Et dans ce cadre de figure, la RSE peut-elle donc devenir un levier de transformation structurelle pour les économies africaines et accélérer leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales?
Naturellement, la RSE peut contribuer efficacement à renforcer la chaîne de valeur chez nous. En faisant quoi? C'est-à-dire que si on l'encadre, parce que jusque-là, ce qui existe dans beaucoup de contrats, c'est ce qu'on appelle les paiements sociaux, qu'ils soient obligatoires ou qu'ils soient volontaires. Ceux qui sont volontaires sont rangés dans le champ de la RSE. Ceux qui sont obligatoires, bien sûr, relèvent de la fiscalité, peut-être. Alors, donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, si la RSE est bien encadrée et qu'elle définit les canaux dans lesquels les compagnies doivent investir en Afrique, vous verrez qu'il y a des pays qui ont fait beaucoup d'efforts, par exemple, où même le capital, une partie du capital de la compagnie doit être réinvestie dans le pays d'opération. D'autres refusent même le transfert intégral des devises. Ce qui fait que c'est des initiatives comme ça qui pourraient aujourd'hui même donner de la valeur ajoutée ou bien un effet multiplicateur de l'activité de la compagnie dans le pays où ils sont en train d'opérer. Et de la seule manière qu'on pourrait aujourd'hui rendre beaucoup plus durable et beaucoup plus importante l'impact, bien sûr, de la RSE. Sinon, ça reste des actions sporadiques, des investissements marginaux, juste pour donner une bonne image, une bonne réputation à la compagnie et non donner de la durabilité aux populations qui devraient en bénéficier.
Et justement, la dernière question que nous sommes plutôt tentés de vous poser, c'est qu'aujourd'hui, on parle de la responsabilité sociétale des entreprises. Et qu'en est-il aujourd'hui, surtout pour l'Afrique, quand on constate qu'il y a les PME, entre autres, les petites et moyennes entreprises, pour eux, comment intégrer cette RSE dans leur quotidien, mais aussi dans une transformation stratégique qui vise bien évidemment à évoluer dans ce qu'on appelle aujourd'hui cette responsabilité sociétale des entreprises?
Alors, la responsabilité incombe à l'ensemble des entreprises, qu'elles soient PME, PMI ou des multinationales. Mais toujours est-il que nous avons toujours conçu que c'était aux grandes compagnies ou aux grandes entreprises de pouvoir répondre à ces exigences de RSE, alors qu'elle incombe à tout le monde. Donc ça, c'est inéluctable. Mais toujours est-il que tant que ce n'est pas suffisamment encadré naturellement, je crois qu'il y aura toujours des déficits en ce sens. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que si aujourd'hui on veut rendre beaucoup plus puissantes les PME africaines, c'est qu'il faut que l'on exploite davantage la notion de contenu local, c'est qu'elles puissent être elles-mêmes les organismes qui approvisionnent les multinationales en biens et services. Je crois qu'aujourd'hui, si on mesure la quantité d'achat de biens et de services des multinationales en Afrique, cela dépasse largement même les investissements dans d'autres secteurs qu'ils sont en train de faire. Donc, en ce sens, il est important qu'on puisse développer la chaîne d'approvisionnement locale de sorte qu'au moins les PME, PMI puissent s'appuyer sur les multinationales de sorte qu'elles puissent faire des profits importants afin aussi de pouvoir, bien sûr, s'acquitter de leurs responsabilités sociétales d'entreprise. Autrement, elles resteront toujours en état de faiblesse qui ne leur permet pas d'émerger suffisamment.
Et tout ça, bien évidemment, pour une Afrique entre greenwashing et vraie révolution dans la RSE, mais au-delà même du marketing, la RSE aujourd'hui peut-elle changer l'Afrique? C'était la question que nous avons posée à notre invité du jour, M. Demba Seydi. Merci encore, M. Seydi, malgré également le temps imparti, mais aussi malgré votre un emploi du temps assez chargé. Merci de nous avoir encore éclairci sur cette actualité.
Mais c'était un plaisir d'échanger avec vous et de partager mes réflexions sur la question de la RSE en Afrique.
Et merci également à vous, chers amis auditeurs, pour la confiance renouvelée à votre émission Planète Business. Le rendez-vous est pris pour la prochaine semaine à venir, bien évidemment, avec un autre numéro. Au plaisir.